Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ce sont deux histoires de filiation. L'une, largement autobiographique, même s'il s'agit d'un roman, nous permet de traverser le XXe siècle. La Volonté est le nouveau roman de Marc Duguin. Il y retrace avec beaucoup de pudeur le destin de son père. C'est aux éditions Gallimard. L'autre est aussi signé Marc Duguin. C'est l'adaptation au cinéma d'une des œuvres les plus connues de Balzac, Eugénie Grandet, de l'histoire d'un père et de sa fille, qui est aussi la vitrine d'un XIXe siècle patriarcal. Il en fait une adaptation féministe, servie par deux acteurs impressionnants de justesse, Olivier Gourmet et Joséphine Japy. L'écrivain et réalisateur Marc Duguin est avec nous et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Votre film précédent, c'était L'échange des princesses. C'était il y a 3 ans. Là, à nouveau, un film en costume. Vous y avez pris goût ?
Oui, d'une certaine façon. Le prochain ne sera pas en costume. Donc ça, je peux déjà le dire. A priori, ce sera un film totalement contemporain. Mais oui, c'est pas une vraie volonté. C'est-à-dire que ça s'est fait par hasard. C'est-à-dire que le choix de développer Eugénie Grandet fait que voilà, c'est encore un film en costume. Alors on va dire que j'aime bien les contraintes, parce que les films en costume, c'est beaucoup plus de contraintes qu'un film un film contemporain. Mais j'aime bien ce retour dans le passé, cette capacité qu'a le cinéma de réévoquer des périodes qui ont disparu. Et
oui, parce que la fiction historique, vous en avez l'habitude aussi, quoi. Il y a eu la Chambre des officiers, hein, évidemment, qui parlait de la Première Guerre mondiale, des gueules cassées notamment. Vous avez fait aussi Une exécution ordinaire avec l'URSS stalinienne, La malédiction d'Edgar, hein, John Edgar Hoover aux États-Unis, donc La régence dans L'échange des princesses. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce point dans la fiction historique ? Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire ?
En fait, je crois que c'est parti de mon histoire personnelle. C'est-à-dire que comme je suis un petit-fils de gueule cassée, que mon grand-père, ce qui a valu La Chambre des officiers, mon premier livre, mon grand-père a été défiguré pendant la Première Guerre mondiale, et moi j'ai été élevé dans ce milieu de défiguré. Et je pense que j'ai pris à cette âge-là, qui devait être vers les 10 ans, une forte conscience de l'histoire et de ses répercussions sur le destin individuel. Et ce qui a fait mon intérêt pour la grande histoire, mais aussi ce besoin que j'ai toujours de replacer les petites histoires dans cette grande histoire, dans le contexte. Ce que j'ai fait dans le livre, par exemple, où je parle des Trente Glorieuses, je parle de la décolonisation... J'aime bien ce rapport, c'est-à-dire que une petite histoire toute seule m'intéresse pas forcément, la grande histoire toute seule m'intéresse pas forcément parce que je suis pas un biographe, mais le mélange des deux me permet de trouver mon espace d'expression.
Et permet aussi aux spectateurs, lorsqu'il s'agit du film, aux lecteurs, lorsqu'il s'agit du livre, de mieux comprendre à travers le passé le monde d'aujourd'hui. Vous avez l'idée du contemporain en tête quand vous créez ?
Je crois que ça a été dit et redit, hein. Je pense que si on ne sait pas d'où on vient, c'est difficile de savoir où on va. Et je trouve que les racines de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est toujours intéressant de les explorer. Il y a toujours la place pour un nouvel explorateur. Moi, je me souviens, la première discussion que j'avais eue avec l'éditrice de la Chambre des officiers, qui m'avait dit « Ah, mais des livres sur la guerre de 14, il y en a eu des centaines et des centaines des gens qui avaient fait la guerre, etc. » Et je lui avais dit, mais de toute façon, je crois que dans l'histoire, il y a toujours de la place pour un dernier occupant. Et c'est finalement ce qui s'est passé, puisque le livre a eu du succès.
Et le film aussi.
Et le film aussi.
Alors pourquoi Balzac ? Pourquoi adapter Balzac aujourd'hui ? Et pourquoi singulièrement Eugénie Grandet ?
C'est une bonne question.
Merci, c'est gentil, je suis sensible.
Je fais comme les politiques. C'est une très bonne question, je vous remercie de me poser.
Maintenant, c'est la réponse qui importe.
Absolument, mais... C'est assez difficile, en fait, de... Je crois que, alors, très, très souvent, moi, je suis plutôt quelqu'un d'instinctif et d'impulsif que d'intellectuel. C'est-à-dire, j'intellectualise pas ce que je vais faire. Il s'est trouvé que j'étais dans des circonstances, avec très peu de livres autour de moi. C'était, en fait, la veille d'un déménagement. Il restait quelques livres sur une étagère. Et donc, comme je lis, évidemment, tous les jours. Et je me suis dit, tiens, mais Eugénie Grandet, est-ce que j'ai vraiment étudié ce livre à l'école ? Parce que j'en avais pas de souvenir. Alors soit on l'a bien étudié et j'étais pas vraiment présent au cours.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver. À l'adolescence, ça arrive même souvent. Soit j'ai oublié. Et donc je me suis dit, je vais relire ce livre. Et en le lisant, j'ai trouvé qu'il y avait un tel écho sur des problématiques contemporaines que je trouvais intéressant, à condition d'en faire évidemment une adaptation libre. Qui avait tout l'espace pour s'exprimer en tant que scénariste et ensuite en tant que cinéaste.
Alors justement, adaptation libre, ça veut dire couper ? Ça veut dire réécrire ? Ça veut dire choisir ?
Ça veut dire tout ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le livre, j'ai pris les scènes qui m'intéressaient, j'ai laissé celles qui m'intéressaient moins, j'ai laissé celles qui étaient peut-être un peu trop typées début du 19e siècle dans leur expression, dans les sentiments, des choses un peu compassées, quelque chose qui aujourd'hui ne... J'ai essayé donc d'apporter une certaine modernité tout en respectant l'œuvre et en respectant le fait que c'est un film d'époque. Donc ça veut dire garder le langage tout en le simplifiant, puisqu'aujourd'hui le langage se rétrécit, mais... Et que très souvent, ce langage très très riche qu'il pouvait y avoir au XIXe siècle, pour des jeunes en particulier, ça peut paraître un peu pédant, un peu excessif.
Mais ça, c'est important pour vous, justement, de rendre le langage balzacien, d'une certaine façon, suffisamment contemporain à cause de l'accessibilité, parce que Manuel Mouret, dans son dernier film, a fait le choix inverse, lui, par contre.
Oui, c'est un choix. Moi, ce que je souhaitais, c'était trouver un juste équilibre entre la langue de Balzac et l'expression contemporaine, sans verser dans ni dans l'extrémité qui est de garder 100% de la langue, ni d'adapter complètement et de faire parler les acteurs comme on parle aujourd'hui, ce qui n'aurait pas eu grand intérêt.
Est-ce que ça veut dire que Balzac a quand même vieilli?
Bien sûr qu'il a vieilli. Très très honnêtement, il y a des passages, on pourrait dire que c'est un peu nunuche. Il y a des côtés comme ça dans Eugénie Grandet, parfois, où on se dit, bon, ça, dire ça au 19e siècle, c'est très bien, mais aujourd'hui, ça paraîtrait un peu, peut-être, non seulement désuet, mais peut-être un peu ridicule. Mais il y a le corps central du livre qui, lui, est très intéressant, c'est-à-dire toute cette sociologie de l'argent et des rapports entre un père et sa fille, la condition des femmes à cette époque-là qui est très intéressante à examiner pour voir toujours dans cette même idée de savoir d'où on vient. Et du coup, le cœur du livre est très intéressant et très très moderne. Après, bon, on est un peu obligé d'élaguer. Et puis, bien sûr, j'ai écrit des scènes qui n'étaient pas dans le livre. Et essentiellement, la plus grande modification que j'ai faite, c'est sur la fin du livre, la fin du film, qui est différente de la fin du livre.
Bande annonce.
Espérer chez mon père que d'espérer un grand amour.
Quand te déciderais-tu pour Eugénie ? Et notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée.
Il vaut mieux attendre pour viser mieux.
Alors voilà toute l'affaire. 200 000 ?
Un immeuble à Paris, ce serait pour vous une forme d'accomplissement.
Il faudra que j'aille à la boucherie.
De la viande. Bouillon, c'est bien assez.
Sans argent, qui voudrait de moi ?
Qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur ?
Je suis Charles Grandet, le fils de votre frère.
Souhaitez cet après-midi, je vous emmènerai voir le pays.
Volontiers. Vous n'avez jamais quitté ces lieux.
Parce que vous croyez qu'on m'y autorise ?
Je vous montrerai Paris un jour.
Enlevez-vous tout cela de la tête.
Et puis tu le connais à peine.
On jase beaucoup en ville sur la façon dont vous traitez votre fille.
Est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur ?
Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille. Il a fallu que vous sortiez avec mon neveu pour faire courir les rumeurs les plus folles dans son mur. Elle va devoir partir. Tu ne le verras plus jamais.
Il te veut pour lui. Pour lui seul.
Il est bon ton de ne rien attendre pour une femme, si ce n'est la volonté des hommes, de tous les hommes.
Tu ne veux pas d'un mari non plus.
Aucune société n'acceptera de fréquenter une femme seule.
Croyez-vous que j'en ai besoin de cette société?
Mais qu'est-ce que vous allez faire?
Eugénie Grandet qui sort demain sur les écrans français. Alors, deux personnages principaux dans le film Marc Duguin. La jeune Eugénie, jouée par Joséphine Japy, et son père Félix, incarné par Olivier Gourmet. Commençons par le père. Tonnelier de profession, il vit dans une modeste maison de Saumur, on est donc en bord de Loire. On l'a entendu hein, là dans la bande-annonce, qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur. C'est presque un viatique hein, cette phrase qui est très 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 forte. On peut dire que le père Grandet, c'est le culte de l'argent.
Ben, c'est l'avènement, le père Grandet, c'est typiquement l'avènement du culte de l'argent, du dieu argent. Parce qu'on est juste après, on est après Napoléon, mais on est donc après la Révolution et ce qui a suivi, on est au moment de la Restauration.
Donc les années 1820-1830.
Hein. On est dans les années 1820-1830, puisque je crois que Eugénie Grandet était terminée en 1833. Donc on a vraiment un début de siècle où s'installe un ordre nouveau, qui est l'ordre d'une bourgeoisie qui a détrôné l'aristocratie, même si le roi est revenu au pouvoir, mais pas pour longtemps. Et donc il y a cette urgence à gagner de l'argent qui ensuite va devenir le modèle de notre société en réalité, qui sera le modèle de la société industrielle.
On est dans la naissance du capitalisme.
On est dans la naissance du libéralisme, du capitalisme. Félix Grandet fait de très bonnes affaires pendant la Révolution. Il achète à bas prix les biens des émigrés, les biens du clergé.
Donc les émigrés, c'est ceux qui ont fui
Révolution française. C'est les aristocrates qui sont partis en laissant derrière eux leurs châteaux, leurs vignes, leurs forêts. Lui, il a ramassé tout ça pour une bouchée de pain. Du coup, il s'est retrouvé pendant la Révolution maire de Saumur. Il en a profité pour faire construire des routes qui mènent à ses domaines. Et il a fait une fortune considérable, alors qu'au départ, c'est un petit tonnelier, mais parce qu'aussi, il a une forme de génie du capitalisme.
C'est le sens des affaires.
Il a le sens des affaires et il a le sens de la finance.
De la finance.
C'est quelqu'un qui comprend comment marche la rente publique, qui sait à quel moment il faut vendre son or, en racheter. Enfin, qui a un sens profond de la spéculation. Et donc, cet homme, alors. On pourrait se dire, bon, s'il en profite, tant mieux, mais
qui est très étonnant, parce que il a effectivement accumulé une fortune colossale, mais il le cache à tout le monde. Il vit de façon extrêmement, extrêmement chiche, hein, et pas de viande au repas, enfin, de temps en temps, mais pas trop souvent, alors qu'il a largement les moyens de s'en payer, et il impose un quotidien extrêmement austère à l'ensemble des siens, et notamment donc à sa femme et à sa fille.
Et à sa fille.
Elles en souffrent, hein, ça se lit d'ailleurs sur le visage, il y a une vraie tristesse là.
Oui, ben sa femme et sa fille n'ont aucune idée de la fortune qui est la sienne. Et donc il les fait vivre dans un dénuement qui est presque sadique. Il y a quelque chose chez lui de... Alors c'est pas Harpagon de Molière. Et puis moi je voulais éviter ça dans le film parce qu'on l'a peut-être beaucoup plus dans le livre où on le voit compter son argent tout ça. Moi j'ai de ce point de vue-là j'ai voulu qu'il soit un peu plus justement encore un peu plus moderne. Mais c'est une personnalité effectivement qu'on pourrait retrouver aujourd'hui parce que la technologie change mais l'homme pas tant que ça.
Oui, et donc il impose cette austérité à sa fille notamment, donc Eugénie, alors ça va loin quand même parce qu'il ne la laisse pas lire le soir hein, comme si utiliser une bougie c'était beaucoup trop dispendieux. On sent une vraie autorité là-dessus. C'est pas quelqu'un qui crie, c'est pas quelqu'un qui s'impose de façon violente, mais c'est le patriarche, quoi. C'est une vraie figure du patriarcat, Grandet.
C'est une vraie figure patriarcale et c'est une vraie figure tyrannique. C'est-à-dire qu'il a, vis-à-vis des femmes, l'idée qui est une idée assez répandue à l'époque, que les femmes sont là pour la reproduction du nom, de la lignée. Mais bizarrement, ça n'intéresse pas Grandet, ça. C'est pas son problème. Parce que son avarice fait que l'idée d'offrir une dot pour que sa fille se marie lui paraît une dépense considérable et imméritée. Donc, ce rapport qu'il a avec ses femmes est un rapport de propriété. C'est-à-dire qu'en fait, il est propriétaire de ses femmes comme il est propriétaire de ses biens. Et à partir de ce moment-là, il décide absolument tout pour eux. Et ce qui est très intéressant, c'est la contradiction qui est la sienne. C'est-à-dire que cet homme qui a défroqué des prêtres, qui a un mépris évident pour la religion, et on le voit dans une scène où il vend une église pierre par pierre, en fait, se sert de la religion et du carcan de la religion pour maintenir ses femmes dans une forme d'obscurantisme et dans une règle. C'est une façon de les asservir. Il les asservit par l'église et par les tâches quotidiennes.
Alors, c'est dans une église, d'ailleurs, que débute le film. Alors, Grandet n'est pas là. Hein. C'est Joséphine Japy, donc, qui joue la petite Eugénie, qui se rend à confesse. Et on entend la phrase qui figure aussi dans la bande-annonce, cette question. Donc, il s'adresse au prêtre. Elle est dans le confessionnal à ce moment-là. Est-ce péché d'attendre un grand amour? Pourquoi avez-vous voulu commencer le film ainsi, Marc Duguin?
Parce que dans la situation où est cette jeune fille, cette jeune femme, en fait, la seule chose qui peut la sauver, pense-t-elle, c'est l'amour.
Parce que ça
lui permettra de sortir de son quotidien. Ça lui permettra de voir d'autres choses, d'autres personnes, d'autres. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on pense qu'elle tombe amoureuse de Charles Grandet, son cousin, qui va arriver plus tard. Donc que c'est une grande histoire d'amour, probablement, mais elle est surtout, à ce moment-là en tout cas, de son histoire personnelle, elle est surtout amoureuse de l'amour, plus que de... C'est un amour... excusez-moi. Elle est à la recherche d'un amour plutôt désincarné, c'est-à-dire qu'elle attend le grand amour comme on attendrait le salut. Et elle va le trouver avec ce cousin qui arrive pour des raisons inopinées, puisque son père est mort, qu'il est ruiné, et que le père Grandet va reprendre les affaires.
Quand les jardins seront en fleurs et que les fleurs seront en joie, nous nous en irons de bonheur, là où les saules ne pleurent pas. Nous enivrerons de bonheur la tourterelle triste qui va. Tu avais l'art et la manière de faire oublier le tracas, toute la guerre, tout ce qui dans le dos fait froid. Et la misère n'existait pas. À quoi bon pleurer les jours qui ne reviennent pas? Le mois de juillet arrive, le mois de juin est là. Les fruits sont aux branches et tes mains sont entre mes doigts. Du rosolan, je fais chanter le vent tout bas. Quand les merles seront moqueurs et que les chiens feront des chats, nous nous en irons de bonheur là où les saules ne pleurent pas. Nous enivrerons de bonheur la Zénaïde à Macroura. Là-bas l'école est buissonnière, les enfants ne grandissent pas. On chante à tue-tête Prévert, des cancrinis en aura pas. Quand les roses seront trémières, quand les fraises seront des bois. À quoi bon pleurer les jours qui ne reviennent pas? Le mois de juillet arrive, le mois de juin est là. Les fruits sont aux branches, ce que ta main est à mes doigts. J'ai mis des pervenches dans un vase mauve lilas.
Le vent tout bas. Là où les saules ne pleurent pas, extrait du nouvel album d'Adrien Gallo dans VMDN sur RFI avec Marc Duguin, dont le nouveau film Eugénie Grandet sort demain sur les écrans français. Alors on le disait, Marc Duguin et Eugénie Grandet rêvent d'amour et l'amour va descendre de Paris en la personne du cousin Charles, le fils du frère de Félix Grandet, qui s'est brûlé la cervelle. C'est l'expression du père Grandet, il l'utilise à plusieurs reprises dans le film pour échapper à ses créanciers. Alors c'est un personnage aux allures de dandy, incarné par César Dombois. C'est vraiment le Parisien qui débarque en province. On se demande presque ce qu'il fait là, quoi.
Oui, parce que son père, en fait, l'a envoyé là, évidemment sans prévenir son fils qu'il allait se brûler la cervelle, en espérant que le père est criblé de dettes. Donc, en fait, il n'y a plus rien à attendre de ses affaires. Et il espère que son fils sera bien accueilli par son frère, qui est le père Grandet de Saumur, ouais. ce frère que lui-même déconsidère en disant c'est un petit tonnelier, alors que lui a l'impression d'avoir réussi parce qu'il a fait fortune à Paris, mais cette fortune finalement a basculé dans la faillite.
Et on est donc tout de suite dans le contraste entre Paris et province, qui est vraiment au cœur d'ailleurs de la comédie humaine de Balzac. Alors forcément un Parisien qui débarque à Saumur, qui plus est beau jeune homme, ça fait beaucoup parler. Témoin cette scène qui se trouve au début du film, on est au bord de la Loire. Un Grandet se promène avec son notaire, qui est joué par Bruno Raffaelli, et ils discutent de l'avenir d'Eugénie, qui est à portée de voix, hein, quelques pas en arrière.
Votre neveu, venu de Paris, fait bientôt avoir un contrat adressé, père Grandet.
Vous m'avez donc accompagné de si bonheur pour me tirer les verres du nez, vous voyez. Alors vous n'allez pas être déçu. Je préférerais jeter ma fille à la Loire que de la donner à son cousin. Vous pouvez annoncer cela ou laisser jaser le monde comme il vous plaira.
Pardonnez-moi, mon cher Grandet, mais je suis votre notaire, votre homme de confiance. Je me dois de tout saisir vous concernant pour mieux vous servir. Dites-moi, vous ne voulez pas la marier parce que vous n'avez pas trouvé l'élu de vos ambitions pour elle, ou bien est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur?
Le bonheur de ma fille, si tant est prouvé que de la marier puisse la rendre heureuse, vaut-il de se débarrasser d'une somme d'argent forcément considérable? J'attends d'en être persuadé.
Et l'on voit les deux hommes marcher sur la rive et s'éloigner à ce moment-là, en laissant la pauvre Eugénie en arrière-plan, toute désemparée. Il y a la force, la violence même, des mots hein, du père Grandet dans cette scène, Marc Duguin. Et en même temps, visuellement parlant, c'est très très beau. Il y a le visage de Joséphine Japy, comme ça, qui regarde les arbres, les peupliers, je crois, en bord de Loire, avec le vent qui bruisse dans les branches. On est dans une scène très très allégorique. Ça, c'est votre côté très prof de la nature, un peu écolo, qui s'est aussi exprimé dans cette scène-là.
Oui, parce que j'aime avant tout la nature et je vis dans la nature. Donc c'est vrai que chaque fois que j'ai l'occasion de ramener la nature dans un film et de montrer ce qu'il peut y avoir de beau et d'apaisant, même si là la scène est très dure. En tout cas,
mais c'est la force de la scène, c'est justement le contraste hein, entre les mots, voilà, et ce que l'on voit à l'écran.
Et d'autant plus que Grandet, ce jour-là, elle sort jamais, Eugénie, quasiment de la maison, sauf pour aller à la messe. Et là, il lui propose cette promenade, et finalement, elle va en revenir effondrée, parce que tout ce qu'il dit à son notaire, il sait très bien qu'elle l'entend. Donc il y a quelque chose de terrifiant dans cette façon.
D'extrêmement cruel, hein, effectivement.
Très cruel dans cette façon de parler.
Alors il y a ce dialogue hein, entre le notaire et Grandet, entre deux provinciaux. Il y a un petit côté chatte-mite un peu, hein, je trouve, chez Bruno Raffaelli, qui a l'air un petit peu sournois parce qu'il a des idées derrière la tête, on va pas tout raconter. Mais qui s'attaque à forte partie parce que Grandet est beaucoup plus fort que lui. Il y a toute une petite collection comme ça de notables qui côtoient Grandet. Il participe à une soirée loto hein, chez lui. Et là, pour le coup, on est vraiment dans du Balzac, là pour le coup. C'est-à-dire, c'est de l'étude.
Oui,
de mœurs.
Oui, on est vraiment dans du Balzac, c'est vraiment une peinture de mœurs. On est dans Daumier, on est dans la description de la vie de province au début du 19e siècle, et dans ces milieux finalement très très étriqués où tout se joue entre quelques personnes. On se marie entre soi, il y a des convoitises, des arrangements, les familles s'arrangent entre elles. Enfin, c'est très intéressant de voir Alors, je crois qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait encore ce genre de choses. Je suis persuadé que ça perdure dans certains endroits. Il y a des alliances entre des familles, il y a des intérêts d'argent dans les mariages. Mais c'est intéressant parce que c'est une peinture tellement fine de la vie de cette bourgeoisie qui n'est pas née au début du 19e, mais qui a vraiment pris le pouvoir à partir du début du 19e et qui va ensuite s'épanouir et qu'on va connaître ensuite pendant la révolution, enfin les deux révolutions industrielles, de façon encore plus éclatante.
Alors le jeune Parisien Charles qui débarque à Saumur, c'est vraiment, on le disait, un Paris qui déboule en province, et il va être un peu comme un rayon de soleil pour la pauvre Jenny, et elle va commettre l'irréparable, elle va se donner à lui, mais aussi pour lui permettre de refaire sa vie, puisque son père est mort, hein, en s'embarquant pour l'Amérique, elle va lui faire cadeau des pièces d'or que son père a coutume de lui donner de temps à autre, et elle va le faire évidemment en cachette de son père, ce qui va le mettre en rage.
Dis-moi, tu ne devais pas m'apporter ton nom ? Je t'ai posé une question.
Il n'est plus ici. Je l'ai placé.
Placé ? Auprès de qui ?
Placé.
Vous avez placé votre or, vous qui n'y connaissez rien. Vous l'avez fait sans consulter votre père. Nous en reparlerons plus tard, maintenant nous n'en avons plus le temps. Allez, allons-y, mon neveu.
Tu lui as donné ton or ?
Je lui ai donné bien plus que cela.
Elle parle peu, Eugénie, Marc Duguin. Surtout dans la première partie du film. Hein. Elle parle peu, mais ses mots qui sont rares sonnent extrêmement fort. En fait, elle parle peu avec les mots, mais elle parle beaucoup avec les yeux. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Joséphine Chappie sur justement cette question de l'expression silencieuse, cette question des regards ?
Ben, je crois que c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment la question du cinéma. C'est-à-dire que quand on est soi-même écrivain, ce qui est mon cas, et qu'on adapte un autre écrivain, le risque, c'est d'être dans l'abondance de mots. Et si on veut vraiment passer au cinéma et ne pas être dans une forme de théâtre filmé, il faut vraiment qu'on renonce aux mots pour travailler sur les expressions. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé... Après la première écriture du scénario, j'ai moi-même coupé beaucoup de choses. Ensuite, à la lecture avec Joséphine, sentant son jeu, j'ai encore coupé. Ensuite, sur le tournage, j'ai aussi fait quelques coupes. Et puis j'en ai encore fait au moment du montage. Donc le texte s'est rétréci au profit de l'image. Et je pense que c'est vraiment ça l'essence. Du cinéma, Steve McQueen disait toujours « Si vous voulez que j'accepte un scénario, faites-moi un scénario sans dialogue. » et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention aux mots au cinéma, que très vite on peut partir, on peut sortir de l'art cinématographique à cause de trop de mots.
Alors, Olivier Gourmet a une présence très, très physique, très, très tellurique, hein, qui passe vraiment par le corps et par la voix. Mais Joséphine Chappie, elle, avec son visage assez diaphane, a une présence un peu plus séraphique. On dirait presque parfois une madone. C'est vrai qu'on pense à des tableaux. En plus, il y a un vrai travail de la lumière. Il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées à la bougie. Vous avez sculpté la lumière comme vous avez sculpté les silences, Marc Duguin ?
Ouais, parce que moi, je pars pas sur un tournage la fleur au fusil. C'est-à-dire que moi, je tourne que quand je suis vraiment totalement prêt. Et dans cette préparation, il y a un travail que je fais avec le chef opérateur, très en amont, qui est un travail sur la lumière et un travail sur la couleur. Et je le fais en partant d'une sélection que je fais moi-même de tableaux. de l'époque. C'est-à-dire, j'ai pris des tableaux entre, on va dire, 1780, 1790 et 1840, de peintres très différents. Puis il peut y avoir aussi des Flamands, hein, qui sont bien antérieurs à ça. Mais je montre ces tableaux à mon chef opérateur et on définit comme ça à la fois ce que je veux en termes de couleurs, donc de gradation, des jaunes, des verts, des bleus en particulier, et aussi en termes de lumière, c'est-à-dire sur les entrées de lumière. Et donc ensuite, je fais pas de storyboard, mais ce qu'on fait ensemble, ce que je fais pour lui, c'est que je lui schématise les déplacements de façon à ce qu'on soit bien prêt. Mais ça, on peut le faire qu'une fois qu'on a les décors. Il faut avoir les décors pour déjà imaginer les déplacements des comédiens et comment ils vont circuler de façon à ce que la lumière soit faite en amont. Si on l'a fait autour, même si j'ai un très très bon chef opérateur qui est Gilles Porte, mais si on l'a fait au dernier moment, très souvent, on peut, ou en tout cas, si on l'a pas anticipé, si on n'y a pas réfléchi avant, je pense que c'est très difficile. Dans l'urgence du tournage, vous savez, le tournage, j'en parle souvent avec des jeunes qui veulent faire du cinéma et tout ça. Le tournage, c'est la chose la plus ingrate qui soit, au sens où il y a plus tant de place que ça pour la créativité, en fait. Parce que d'abord, on est fatigué en permanence, on se lève à 4h du matin, on se couche tard.
On est pris par le temps aussi, hein, très souvent.
On est pris par le temps parce que les budgets de cinéma, aujourd'hui, ils sont pas extensibles à l'infini. Donc tout ça fait que se dire « je vais attendre le tournage pour régler ça ou ça », c'est quasiment impossible. J'ai tourné le film en 32 jours, avec les week-ends entre, ça fait à peu près un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi, je crois. Donc c'est très peu. C'est très peu pour raconter une histoire comme ça. Et il y a 500 plans à faire. Ces 500 plans, si on les a pas pensés, on les a pas préparés, après, il y a des gens qui ont suffisamment de talent, de génie pour improviser et s'en sortir. Mais dans les conditions économiques actuelles du cinéma, je pense que c'est pas possible. Donc je prépare beaucoup en amont.
On le voit passer rue de la grande horloge, ramasser dans ses poches des petits morceaux d'instant.
You could see him coloring silver in your hair, uncatchable, unfair. This guy plays with your regrets.
Ne t'en fais pas, s'il va vite qu'il ne s'arrête pas. Et tant pis s'il ne nous attend pas. Le temps court alors.
Time on the way, you invite him but still fly.
Comme toujours, le temps ne fait que passer.
You would see the time relieving my sorrow, and he's gone tomorrow. Will you forget our moments?
Lui qui passe, qui trace des rides dans la glace, lentement nous efface et change la voix des enfants.
Time all the time, in our lands feel the wind rushing by, from our hands like the sand falling down. Mr. Time always.
Ne t'en fais pas, on l'invite pourtant, le temps ne fait pas. Manière et il s'enfuit déjà. Comme toujours, le temps ne fait que passer.
Le temps, Calogero et Rufus Wainwright dans VMDN sur RFI avec Marc Duguin dans le nouveau film Eugénie Grandet sort demain. sur les écrans français, mais vous êtes aussi dans l'actualité culturelle, Marc Duguin, pour une autre raison, un roman. Vous publiez chez Gallimard un roman intitulé La Volonté, un roman qui retrace le destin de votre père. Alors le point de départ, en fait, c'est une fin. Une fin de vie, hein, celle d'un père qui sait sa mort prochaine, et d'un fils qui est à son chevet, qui est à l'hôpital, qui discute avec l'interne de service. Il veut qu'on mette fin aux souffrances de son père. Et c'est pour le convaincre, en quelque sorte, qu'il lui raconte la vie exceptionnelle de cet homme condamné à brève échéance qui est dans la chambre à côté. On peut dire, Marc Duguin, que l'ombre de la mort jette la lumière sur la réalité d'une vie.
Ah ben je crois que la mort donne beaucoup de sens à la vie, en fait. Et c'est quelque chose qui, évidemment, nous habite tous, puisque la question essentielle, qui est une question moi qui m'a traversé l'esprit très jeune, je parlais tout à l'heure des gueules cassées, et le fait de voir ces gens défigurés, qui ont échappé à la mort de très très peu, ça a été déjà une source de réflexion pour moi, enfant, sur la finitude, finalement, sur qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie.
Ça, c'est, vous avez trouvé la réponse.
J'aimerais bien. Oui, enfin, bien sûr, j'ai des embryons de réponse, mais j'ai pas j'ai pas une réponse qui conviendrait probablement à tout le monde. Moi, c'est justement, je trouve qu'une vie réussie, c'est un passage réussi. C'est un passage entre deux générations, quand on a la chance d'avoir des enfants, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Mais pour moi, et j'ai écrit ce livre évidemment dans l'idée de ce passage, parce que mon père étant mort prématurément il y a maintenant 35 ans, je voulais transmettre à ma descendance, qui est assez nombreuse, le message, enfin en tout cas l'essence de ce qu'il a été et de ce que moi j'ai essayé évidemment de leur transmettre, que j'ai hérité de lui.
Pourquoi maintenant ?
Ben maintenant, parce que le temps a passé. Je pense que ce qui est très intéressant quand on a vraiment beaucoup aimé quelqu'un, ce qui est le cas de mon père et de ma mère également, mais il y a un premier temps qui est un temps du deuil, qui quelquefois peut être très très long, ce qui a été le cas pour moi. Je dois dire que la mort de mon père m'a beaucoup traumatisé. Elle m'a traumatisé parce qu'il avait déjà tant souffert dans sa vie. Il lui avait fallu tellement de volonté pour arriver à vivre qu'on lui reprenne la vie aussitôt par la maladie. C'était, je trouvais ça d'une injustice telle que j'ai mis très longtemps à me reconstruire par rapport à cette fatalité-là. Et je pense qu'il y a un temps du deuil et ensuite vient ce temps qui est assez merveilleux, qui est le temps... je dirais de la joie d'avoir connu ces gens-là et de la célébration. Et cette célébration, ben évidemment pour moi qui est ce mode d'expression, qui est l'écriture, ça aurait pu être un film aussi d'ailleurs, hein, mais j'ai trouvé que voilà, le temps était venu. Mais il a fallu beaucoup de temps parce que ça demande... moi j'essaie d'être un romancier, créer des histoires qui sont toujours... assez proche de moi, mais assez loin en apparence. Et là, parler de moi, de ma famille, je trouvais que c'était un exercice particulièrement compliqué. Et donc, j'ai un peu retardé le moment. Et je crois que alors, il y a eu un phénomène déclencheur qui est très intéressant, qui est cinématographique. C'est que j'ai vu le film de Cuarón, Roma, et que ce film, que j'ai trouvé formidable, a déclenché quelque chose, parce que dans Roma, Cuarón parle de son père. Et je me suis dit, tiens, et ben lui là, il a osé. Il a été. Alors et dans un premier temps, d'ailleurs, j'avais pris des notes pour préparer un film. Et puis je me suis dit finalement. Et c'est en rentrant du tournage de Jenny Grandet, trois jours après, enfin trois ou cinq jours après, je ne sais plus exactement. Il y a eu le grand confinement, le premier. Et donc je pouvais plus travailler, je pouvais pas monter mon film. J'étais complètement coincé chez moi. Et je me suis dit, bon, alors, c'est vraiment le moment de... Et d'autant plus qu'il y avait quelque chose qui faisait écho. C'est qu'on était tous confinés à cause d'un virus et que toute l'histoire de mon père part d'un virus.
Oui, alors parce qu'il a effectivement vaincu la poliomyélite, hein, et le handicap qui en découle, c'est peut-être la première grande manifestation dans le roman, en tout cas, de cette volonté qui a donné son titre à votre livre. Donc, il a surmonté la polio et après, il a fait des études absolument brillantes, hein, jusqu'à devenir un ingénieur. Quand on vous lit, Marc Duguay, on se dit que les efforts peuvent payer. Est-ce que votre père, c'est pas finalement un bon exemple de cette fameuse méritocratie républicaine que beaucoup aujourd'hui imaginent derrière nous en France ?
Ben, je crois que, pour répondre à votre question très précisément, et pour en avoir beaucoup parlé avec mon père, qui est, vous avez raison, un exemple, l'exemple même de la méritocratie républicaine, que d'une certaine façon, cette méritocratie était plus en place à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon, après, la volonté, c'est pas donné à tout le monde non plus.
Non.
Il y a une question aussi, probablement de génétique, de caractère, de... Et moi, je ne veux pas, à travers ce livre, créer une sorte de délimitation qui serait un peu bicéphale, comme ça, enfin, en tout cas, manichéenne, entre les gens qui ont de la volonté et ceux qui n'en ont pas.
Ah non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le destin d'un homme, hein. Petit breton, origine modeste.
Non, mais je sais que c'est pas votre idée, mais je veux vraiment pas ça, parce qu'en fait, la volonté, c'est très, très, très dépendant d'une personne à l'autre.
Et oui, ses ressources, il les trouve en lui.
Mon père a trouvé ses ressources en lui, alors il avait plein de raisons. Parce que non seulement, ce qui est quand même extraordinaire dans son destin, c'est qu'il se retrouve soutien de famille en 41, puisque son père est retenu aux États-Unis et qu'il ne le reverra que 5 ans plus tard, puisque son père, il ne le sait pas, il n'aura jamais de nouvelles pendant ces 5 années, s'est engagé dans l'armée américaine, puisqu'il était coincé sur son bateau à New York. Et donc, il est soutien de famille. Il va gagner de l'argent dans les fermes. Il va gagner. Il va braconner pour faire vivre sa mère et son frère et sa sœur, qui sont plus jeunes que lui. Et soudain, il est frappé par ce virus absolument terrifiant.
En relevant un collet,
il est frappé par le virus de la polio. Et évidemment, il est paralysé, complètement paralysé au niveau du bassin jusqu'aux pieds. Et malgré ça, il y a une forme de solidarité qui va se jouer dans le village.
Oui, parce que le village va se mobiliser pour qu'il puisse être soigné à Paris.
Qu'il puisse être soigné à Paris.
À l'hôpital enfants malades, l'hôpital Necker actuel.
Voilà, il va être aux enfants malades à Necker à Paris. Et à partir de là, il va commencer à faire ses études en alternance, c'est-à-dire en étant un mois à l'hôpital, un mois... suivant les cours avec des appareils, des
voilà, bêtises, la volonté, hein, toujours la toujours la volonté,
toujours cette même volonté,
mais la volonté et la dignité aussi, c'est peut-être un autre mot qui accompagne l'ensemble de son parcours, Marc Duguay.
Oui, il avait ça c'est évident, il avait une grande dignité. Et d'ailleurs, il ne s'y supportait pas que quelqu'un pointe son handicap. C'est quelqu'un qui a toute sa vie essayé de passer au-dessus de ce handicap. Et ça lui a demandé énormément d'efforts physiques, déjà, pour se mouvoir, et évidemment psychologiques. Et les seuls, et j'en parle dans le livre, les seuls moments de plénitude qu'il avait, c'est quand il était en mer, quand il nageait en mer, parce qu'il était porté.
Voilà, et c'est vrai que certains se posaient la question en le regardant, en tout cas dans le roman, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et on a l'impression qu'il est dans un autre monde et qu'il vit effectivement tout à fait
poisson.
Pleinement.
C'est un homme poisson. Il partait des heures et des heures nager avec une seule jambe, puisqu'il en avait récupéré une à force d'opération. Et donc il ne trouvait les moments de réconfort étaient en mer.
Alors, il réussit sa vie professionnelle, mais aussi sa vie conjugale. Hein. Alors, vous racontez le coup de foudre. Hein. Ça se passe dans un train autour d'équations mathématiques. Hein. A priori, il n'y a plus que l'amour, mais ça fonctionne très bien. Les deux amoureux vont avoir un petit peu de mal au début à ce que leur union soit acceptée par leur deux familles. Alors, en plus, il y a le souvenir du grand-père gueule cassée. Hein. Donc, un deuxième handicapé dans la famille, c'est pas toujours évident. Et pour vivre leur amour, eh bien, ils vont partir. Ils vont s'éloigner de leur famille respective dans un premier temps. Ils vont partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie, ensuite à Dakar. Et ces deux séjours à l'étranger vont vous permettre de raconter aussi à grands traits, on parlait tout à l'heure de votre intérêt pour l'histoire, de raconter les grandes étapes finalement du XXe siècle. Hein. Vous évoquez la résistance et l'occupation, vous évoquez la colonisation, enfin la décolonisation plus exactement, la guerre froide aussi en évoquant au détour de quelques pages le parcours d'un cousin communiste, l'arrivée de la société de consommation. En fait, le destin de votre père, c'est le miroir de l'histoire du siècle.
Ben c'est ce que j'ai voulu faire, parce que je pense que je suis pas programmé comme écrivain pour raconter une histoire personnelle, je dirais seule, hors contexte. Et je trouve intéressant de replacer de ce fait mon père et ma mère dans ce contexte des années d'après-guerre jusqu'à 84, quand il est mort.
Alors, ils sont au diapason du siècle, parfois avec un petit peu d'avance. Par exemple, quand la mère veut travailler, son entourage ne la comprend pas forcément, parce qu'elle n'en a pas besoin, hein, forcément. Mais elle tient à faire sa place dans la société. Il y a un vrai côté féministe aussi.
Oui, parce qu'il y a... même carrément féministe. C'est-à-dire que mon père, pour moi, a été le premier féministe que j'ai rencontré. C'est-à-dire que lui, il avait décidé que ma mère devait travailler... Et il était très fier parce qu'à un moment donné, lui était scientifique et ma mère était dans une grande entreprise et elle gagnait plus d'argent que lui. Il en était très fier. Il disait ça à tout le monde et donc il avait quelque chose de. Et il y avait comme ça des gags, c'est-à-dire que par exemple, quand il recevait des invités à la maison, mon père pouvait pas se lever à cause de son handicap pour faire le service à table. Et il refusait que ma mère fasse le service devant d'autres personnes. Donc, en fait, il me payait pour faire le service à table. Et donc, j'ai fait le service comme ça à table pendant des années pour d'une part, aider mon père et surtout éviter que ma mère donne l'image d'une femme totalement réduite à des tâches dont mon père ne voulait pas entendre parler. Donc, c'était très intéressant parce que c'est très rare à cette époque-là. Parce que mes parents n'étaient pas des gens de dogme, c'est-à-dire qu'il parlait très peu du féminisme, par exemple.
C'était des humanistes.
Et c'est un petit peu ce qui caractérise la famille, c'est qu'on parle pas beaucoup, mais on fait, ouais. En tout cas.
À Dakar, un petit garçon qui naît, c'est le deuxième de la famille, c'est le cadet, il s'appelle Marc.
Mais voilà.
Il n'y a pas le prénom dans le livre, sauf erreur de
Non, mais il n'y a pas beaucoup de noms dans le livre. C'est volontaire, c'est-à-dire que j'ai voulu garder l'anonymat le plus longtemps possible. Et à la fin, je dis mon père, mais voilà. C'est un
petit garçon un peu turbulent. Il a un petit peu de mal à rentrer en contact, en communication avec son père. Il y a une vraie proximité et en même temps une forme de distance. C'est assez curieux. Comment est-ce que vous pourriez définir ce lien entre le père et le fils?
Mais d'abord, mon père était, vous savez, les gens qui sont comme ça, très très forts dans leur tête, qui ont un caractère aussi trempé, forcément, ça crée une distance avec les autres. Parce que il y a un côté modèle, il y a un côté statut du commandeur. Et ajouté à ça, le fait que mes parents étaient très liés, très soudés, et je le dis dans le livre, étaient une forme une sorte de couple forteresse, faisait que tout était très centré sur eux, mais que même s'ils nous donnaient beaucoup d'amour et d'attention, mais il y avait quelque chose de qui était eux avant tout. Et c'est très difficile c'est difficile pour un enfant de trouver sa place. Je dirais que parfois plus facilement que pour des enfants de parents divorcés, si évidemment le divorce est passé dans de bonnes conditions, mais qui instinctivement en trouvent leur place. Alors que là, c'était assez difficile de se positionner par rapport à eux, en fait.
Merci beaucoup, Marc Duguin. La volonté, le roman chez Gallimard, je rappelle le film, hein, bien sûr, Eugénie Grandet, avec Joséphine Japy et Olivier Gourmet, à partir de demain sur les écrans français. L'info, et à demain, vous m'en direz des nouvelles. RFI.